Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire.
Ce furent les heures exaltantes.
Paris est libéré.
Vive Leclerc!
Paul Scholtitz s'est rendu à De Gaulle.
Mission accomplie, mon général.
Vous avez de la chance, vient de lui dire le général De Gaulle, alors que Leclerc s'apprête à lancer ses chars sur la banlieue parisienne. Nous sommes le 24 août. La résistance prend contact avec la 2e DB. Chaban supplie Leclerc de faire vite. En fin de journée, Langlade se présente au pont de Sèvres. Massu franchit la Seine. Il rencontre alors le capitaine Drone à la croix de Berny et il lui demande ce qu'il fait là. Il lui ordonne alors de filer droit sur Paris, d'entrer dans Paris. Paris est abordé par l'Haye-les-Roses, Cachan, Arcueil, le Kremlin Bicêtre. On arrive à la porte d'Italie, boulevard de l'Hôpital, pont d'Austerlitz. À 21h22, trois chars, Romilly, Montmirail, Champaubert, sont devant l'hôtel de ville. Toutes les cloches de Paris sonnent. Leclerc, resté à la croix de Berny, sous un arbre, le jour se lève, il fonce vers Paris. Il rencontre Chaban au pied du Lion d'Enfer Rochereau. Puis direction la gare Montparnasse. Pourquoi? Eh bien parce que c'est là que le central téléphonique est en parfait état. On a envoyé un ultimatum à von Scholtitz. Il ne se rend toujours pas. Alors Leclerc s'énerve et demande qu'on le lui amène. Ah ben justement le voilà. Il tend la main à Leclerc et ce dernier refuse de la serrer. On lit les 19 lignes de la convention de reddition. Von Scholtitz signe. On se rend alors à la gare Montparnasse. Leclerc et Chaban sont dans le même scout car ou scout car, encadrant l'Allemand. Sur une table modeste, von Scholtitz signe les ordres qui sont destinés aux Allemands qui ne se sont pas encore rendus. À 17h, De Gaulle entre dans la gare. Il approuve le texte signé par Leclerc et Roll Tanguy, résistant qui sera d'ailleurs nommé compagnon de la libération. La 2e DB se voit confier deux missions. Réduire les dernières poches de résistance dans et autour de Paris. Et la seconde, assurer le service d'ordre du général De Gaulle le lendemain aux Champs-Élysées. Alors les Américains, eux, ne sont pas contents du tout. Géraud interdit à Leclerc de prendre part à la moindre cérémonie. Et vous pensez bien que Leclerc ne va pas obéir. Il descend les Champs-Élysées, puis assiste à l'office à Notre-Dame. Le soir du 28 août, Paris est nettoyé. Géraud s'adresse à Leclerc, finalement, en le félicitant, mais il ajoute que s'il avait fait partie de l'armée américaine, il serait passé en conseil de guerre immédiatement. Ce à quoi Leclerc répond que lorsque les ordres sont des conneries, c'est pas une raison pour les exécuter. La 2e DB s'installe au bois de Boulogne. Elle a quand même perdu 28 officiers et 600 soldats. Thank you. Maintenant, Leclerc a le temps de penser à sa famille. Un piperclub le fait atterrir derrière le château de Tailly. Ses deux fils aînés courent vers lui. Sa femme est à la messe, elle emprunte un vélo et croise sur la route son mari qui en a fait autant. Les deux fils s'engagent, ainsi que deux de leurs cousins germains, les fils de Guy et un neveu, Alain de Courson de Villeneuve. Leclerc va voir ses parents au château de Bellois. La bâtisse a absolument souffert, mais ses parents sont là et tout le village accame Leclerc. Le père explose quand il entend que Philippe veut conserver le nom de Leclerc. Mais il le conserve. Ce dernier est de retour à Paris le 7 septembre. Eisenhower demande à la deuxième DB de quitter Paris. Pour où ? Pour l'Est, pour la Lorraine. Leclerc envoie le capitaine de Boissieu à Colombey-les-Deux-Églises où des Allemands ont pris des otages. La boisserie a été saccagée et incendiée. Et Vichy y avait même fait apposer les scellés. Massu se heurte à des blindés allemands. Leclerc, à la tête des alliés, fonce les dés. C'est la victoire. Le 18 septembre, il est invité à déjeuner. À la fin du repas, Patton le décor de la Silver Star. Et déployant une carte, il pointe un village en demandant à Leclerc de prendre cet objectif. Ce dernier est d'accord, mais comme toujours, si on lui donne le matériel, eh bien il l'aura. Il installe son PC dans le château de la princesse Gabrielle d'Arenberg, fille d'un officier de marine mort en 1940. Mais il ne veut pas montrer qu'il fait de différence, alors il mange à la popote avec tout le monde. Pendant 3 semaines, c'est l'inaction. Puis enfin, c'est la prise de Baccarat. Depuis que je vous parle de Philippe de Hautecloque, j'ai surtout montré un côté assez froid de son caractère. Eh bien, voici une anecdote après la victoire de Baccarat. Il apostrophe le capitaine Chambon et lui dit « C'est votre anniversaire le 3 novembre, je crois. Il y a longtemps que vous avez vu votre mère ?»« 3 ans, mon général. »« Où habite-t-elle ?»« À Cannes. »« Eh bien, bourrez une remorque de jerrycan et foncez la voir. » Seulement, soyez revenu pour le 12. Tout de même, il a du cœur. Maintenant, direction Strasbourg. Mais d'abord, Saverne. C'est encore la victoire avec Massu. On capture le général allemand et 800 soldats. On se rue sur Strasbourg. On arrive à 300 mètres du pont de Kehl. Les Allemands ouvrent un feu d'enfer. L'aumônier est tué. Le char Cherbourg est complètement allumé. Mais Strasbourg est prise, et Leclerc déclare « Quand je libère Strasbourg, j'écris ma proclamation moi-même. » Et à ses troupes, il dit « Le serment de Couffrat est tenu. » Je vous rappelle que ses fils sont dans la bagarre. Il y en a un même qui a à peine 18 ans. La 2e DB est relayée par la 3e division d'infanterie américaine et se dirige vers le sud, c'est-à-dire vers Colmar et Mulhouse, et on se heurte encore à des Allemands. Le plus grave est qu'il y a dissension dans l'armée française, parce que Delattre veut s'approprier cette bataille. Et qui plus est, De Gaulle ordonne à Leclerc d'obéir à Delattre. Et Leclerc répond à De Gaulle une lettre d'une rare violence. Il se retire alors de la poche de Colmar. Il fait très froid. Il fait alors confectionner des pelisses pour ses hommes. Et il aperçoit un de ses gardes qui n'a pas la sienne. Il lui donne l'ordre alors d'aller la chercher. Et le garde, le jeune Dubois, dit qu'il est interdit de quitter son poste. Leclerc alors prend la relève du soldat, monte la garde à sa place pendant que le soldat va chercher sa pelisse. De Gaulle a le projet de bâtir un corps d'armée autour de la 2e DB. Et Leclerc se demande à qui serait subordonné le nouveau corps d'armée. Il dit à De Gaulle qu'il ne veut pas être sous les ordres de Delattre et que, si c'est le cas, il n'y restera pas 8 jours. Leclerc obtient gain de cause, il restera avec le 21e corps d'armée américain. De Gaulle se rend en Alsace, décore Leclerc de la plaque de grand officier de la Légion d'honneur et fait l'éloge de la 2e DB devant Delattre, un petit peu dépité. Le 28 février 1945, la 2e DB reçoit l'ordre de se replier à Châteauroux. Leclerc s'installe alors à Paris, rue François Ier, et il apprend que son fils Henri reçoit la croix de guerre avec palme. Il pense qu'on va croire qu'il accorde des faveurs aux siens, et Massu lui dit que son fils a été magnifique de sang-froid, qu'il a été légèrement blessé 2 fois, et il ajoute que ce soldat mérite d'être récompensé et que cela ne regarde pas son père. Leclerc se consacre maintenant à la composition de son futur corps d'armée, mais voilà que De Gaulle envoie la 2e DB à l'ouest pour combattre les quelques poches qui restent. C'est fait. Leclerc a la joie de repartir vers l'Allemagne, non pas pour rejoindre l'armée de Delattre, mais la 7e de l'américain Patch. En approchant de Munich, la 2e DB rencontre des êtres hagards, d'une extrême maigreur, qui disent s'être échappés de Dachau. Alors Leclerc demande qu'on aille voir. Et les officiers ont du mal à restituer l'horreur des lieux. Le général ordonne alors de secourir ces pauvres hères. Il assiste à la messe et harponne le curé, qui dit qu'il honorait tout. Leclerc dit « Vous osez me dire que vous ne saviez pas ? Et la fumée alors ?» La 2e DB arrive au refuge d'Hitler. C'est là que tout le monde apprend la capitulation signée à Reims. Le lendemain, départ vers Diessen à l'ouest. Leclerc fait un rapide aller-retour de Paris pour remettre à De Gaulle un rapport sur Dachau. Il y revient et promet aux prisonniers un retour rapide. En attendant, il fait livrer de pleins camions de ravitaillement. On occupe l'Allemagne. Le général est rapidement lassé. De Gaulle vient inspecter la 2e DB. Cette dernière alors rentre en France à la fin mai, direction la Seine-et-Marne. Leclerc prend ses quartiers rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il passe un week-end à Tailly. Il demande officiellement au ministère de la Justice de s'appeler désormais Leclerc de Haute-Cloque. Alors que va-t-il faire maintenant ? Il voudrait bien être nommé résident général au Maroc. De Gaulle, lui, rêve de le voir en Extrême-Orient. Et c'est ce qui se produit au grand dam d'Eisenhower qui n'en veut pas. En attendant, le 18 juin, Leclerc défile à la tête de la 2e DB sur les Champs-Élysées. Il la quitte et conserve son insigne. D'ailleurs, il prend souvent ses repas à la maison de la 2e DB et il va aux réunions des anciens. Donc, De Gaulle envoie Leclerc en Indochine, flanqué de Thierry d'Argentlieu. Ce dernier sera le haut commissaire et Leclerc le commandant supérieur des troupes en Extrême-Orient. Le départ est fixé au 18 août. En arrivant, Leclerc est suffoqué d'apprendre que les Alliés ont décidé de couper l'Indochine en 2. Les Britanniques prennent possession du sud et les Chinois du nord. Il écrit à De Gaulle qu'il ne peut rien faire parce que la décision a été prise à Potsdam et elle a été prise sans lui. Leclerc se concentre sur ce qui lui a été fixé, c'est-à-dire rétablir la souveraineté française. Il lui faut des troupes et du matériel. Alors il essaie de traiter avec l'anglais Mountbatten sur place. C'est « oui, non, on verra ». En fait, Mountbatten ne comprend pas l'obstination des Français à recouvrer leur souveraineté en Indochine. D'Argentlieu arrive. Leclerc lui écrit que comme c'est lui qui va supporter le poids principal des responsabilités, il faut qu'il dispose des pouvoirs adaptés. Il n'a toujours pas digéré d'avoir été placé sous les ordres d'Argentlieu. Il veut bien laisser d'Argentlieu s'occuper de la diplomatie, mais il veut avoir les mains libres pour tout ce qui concerne le militaire. Alors on revient toujours à l'Indochine, de Gaulle veut lui donner son autonomie. Et Leclerc, lui, pense, au contraire, qu'il faut retourner à la souveraineté française. Les incidents se multiplient. Il y a même des Français massacrés. Il y en a 200 qui sont pris en otage et on ne les reverra pas. Leclerc écrit à sa sœur « Nous sommes dans la merde jusqu'au cou ». Attendons patiemment comme sœur Anne, mes bateaux et mes soldats. En attendant, j'encaisse tous les coups de vache des différentes nations me promettant, suivant la règle de l'Évangile, de rendre au centuple dès que je le pourrai. Le 5 octobre 1945, Leclerc atterrit à Saïgon. Il est acclamé par les Français qui s'y trouvent. Pour l'instant, en tout cas, il est un général sans troupes. Il doit donc cibler ses actions. Au Cambodge, il règle les problèmes contre l'influence japonaise grâce à l'anglais Gracie qui envoie un détachement. L'enjeu le plus important se situe en Cochinchine. À partir du 15 octobre, les premiers éléments du groupement Massu débarquent à Saïgon. En moins de 2 semaines, dans un rayon de 100 km autour, Saïgon est complètement nettoyé. Comme au Cameroun et au Tchad, Leclerc finalement s'adapte à l'Indochine. En dehors de la presse et du courrier, le général ne s'accorde aucune distraction. En attendant, le Viet Minh, alors je vous rappelle ce que c'est que le Viet Minh, hein, c'est une organisation politique mais aussi paramilitaire vietnamienne qui a été créée en 1941 par le Parti communiste indochinois indépendantiste qui veut traiter avec Leclerc pour qu'il s'en aille, bien sûr. Et bien loin de le vouloir, Leclerc veut débarquer au plus vite dans le nord du pays. Nous allons faire une autre pause musicale. Thank you. Il dit qu'il faut être patient, car il faut un sacré temps pour remuer les états-majors, obtenir des cargos et les acheminer jusqu'à Saïgon. Arrive alors le général Salan, qui a une grande expérience au Tonkin. Mais coup dur, le 26 janvier 1946, de Gaulle quitte le pouvoir suite au débat houleux à l'Assemblée sur les crédits de l'armée. Leclerc en est complètement atterré, mais il continue le travail sur le terrain. Les Britanniques commencent à se retirer. La Cochinchine et le Sud Annam sont acquis en février, puis le Cambodge et le Laos. Manque le Tonkin. Leclerc veut faire vite en utilisant la voie maritime, parce que la distance Saïgon-Hanoï est trop longue, ça fait 1200 km, pour des chars bien sûr qui se feraient prendre en cours de route. Alors on récupère toutes sortes de bateaux, on traite aussi avec les Chinois qui disent qu'ils vont partir. Alors ils disent toujours qu'ils vont partir, mais en attendant ils sont toujours là. Et que la France pourra prendre la relève. Ho Chi Minh, finalement, a un accord et il permet à la flotte française d'arriver. Donc elle arrive à Saïgon. Eh oui, mais le navire de tête est mitraillé. Par qui ? Par les Chinois. Puis ce sont les autres navires. Les Français finissent par riposter. Et Dieu merci, ils dominent la situation. Les Chinois, alors, abandonnent le Tonkin. Le traité dit que le gouvernement français reconnaît la République du Vietnam comme un État libre, ayant son gouvernement, son parlement, son armée, ses finances, mais faisant partie de la Fédération indo-chinoise et de l'Union française. En contrepartie, le gouvernement du Vietnam se déclare prêt à accueillir amicalement l'armée française lorsqu'elle relèvera les troupes chinoises. Dans l'esprit d'Ho Chi Minh, la Cochinchine est concernée par l'accord. Mais le pays n'est pas pacifié pour autant. 8 mois, sous un climat exténuant, à reconquérir l'Indochine avec des moyens de fortune, tout ça, ça a usé Leclerc, qui de plus souffre du paludisme. Il informe Juin qu'il veut rentrer en France. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, c'est Georges Bidault. Il offre alors à Leclerc le titre d'inspecteur général des forces terrestres en Afrique du Nord. Et il lui dit qu'il ne relèverait que du président de la République et du ministre de la Défense. Seulement inspecter le pays, ça n'est pas commandé. Et cependant, il accepte et reçoit alors sa 5e étoile, la médaille militaire, et il est même nommé à l'Académie des sciences coloniales. Il quitte l'Indochine le 19 juillet 1946. En fin de matinée, le 25 juillet, il est reçu avec ses 4 officiers par le pape Pie XII. Il arrive à Paris et il retrouve sa famille au Crillon. Le 31 juillet, une conférence de presse est organisée. Et Leclerc dit qu'il ne veut répondre qu'aux questions strictement militaires. Et si on essaie de le brancher sur la politique, eh bien il répond que cela ne le regarde pas. Le 3 août, il rend visite au général de Gaulle. Ce dernier approuve toute l'action de Leclerc en Indochine. Puis ce sont les vacances, les premières depuis 6 ans, chez lui à Tailly. Il chasse, il conduit sa famille, les 3 derniers ont moins de 15 ans, au Touquet. Ses officiers passent le voir. Les 24 et 25 août, il est à Paris pour commémorer la libération de la capitale. Il a toujours son quartier général, son état-major à l'hôtel Continental à Paris. De là, il commence à récolter des renseignements sur l'Afrique du Nord. Le 12 novembre, il traverse la Méditerranée et arrive en Algérie. Il dit qu'il est venu pour rendre le plus de services possible. Il rencontre des civils et des militaires et découvre les injustices qui frappent les Algériens. Je vous donne un exemple. Un sous-lieutenant algérien doit attendre 5 ans pour passer lieutenant, alors qu'un Français de souche n'attend que 2 ans. il rencontre le général Duval, qui lui dit qu'un fossé s'est creusé entre la communauté française et l'algérienne. Et il ajoute qu'il n'est pas possible que la souveraineté française soit exclusivement basée sur la force. Mais pendant ce temps-là, voilà que les choses se gâtent à nouveau en Indochine. Alors Blum y envoie Leclerc. Il devait passer Noël en famille. Le 25 décembre, on décolle de Villacoublay. Eh oui, il ne passera pas Noël en famille. 28 décembre, atterrissage, à Saïgon. Après plusieurs jours d'observation, Leclerc rédige un rapport disant que la faute des émeutes est l'absence de politique de la France. On laisse le temps à l'adversaire de se préparer. Il faut donc lui envoyer des renforts, c'est toujours le problème, hein. Blum lui propose d'être haut-commissaire. Leclerc refuse en disant que c'est pas son truc. Et puis il rencontre Ramadier. Et finalement, il accepte, mais il veut la confusion des pouvoirs civils et militaires. Et il ajoute, bien sûr, qu'il lui faut des moyens. Et il n'aura pas ce qu'il demande, donc il refuse le poste. Alors tout le monde le supplie. Et qui même Thorez, à la tête du Parti communiste, lui dit qu'il est le seul à pouvoir tirer la France de ce merdier. Donc Leclerc abandonne l'Indochine pour l'Afrique du Nord. Le 14 mars 1947, il s'en va en Kabylie, où sont craints de nouveaux troubles, puis direction la Tunisie. Il revient à Paris très content que le général de Gaulle vienne de créer le RPF. Il rentre de Tailly pour le week-end, et si ce n'est pas possible, alors c'est sa femme qui se déplace avec la plus jeune fille, Bénédicte. Il se consacre maintenant entièrement à l'Afrique du Nord. Il dit que certes, il faut savoir évoluer, mais évoluer dans la faiblesse, en perdant la face, surtout avec les Arabes, c'est disparaître. Alors ce sont des allers-retours fréquents avec l'Afrique du Nord. Novembre 1947, recrudescence d'agitation anti-française en Algérie. Leclerc se prépare à s'y rendre, donc direction Villacoublay. On monte dans le B-25, nous sommes le 26 novembre 1947. Le 27, manœuvre interarmée. Le 28, prise d'armes. Puis, direction l'aérodrome de la Seigna, il fait froid. Prochaine étape, Colombéchard. Colombéchard, c'est une petite ville au sud d'Oran. Environ 2 heures de vol. L'avion roule sur le tarmac et prend l'air. Il est 10h15. À Colombéchard, tout le monde s'est donné rendez-vous pour voir Leclerc. Le dernier message de l'avion, c'est « Tout va bien à bord, sommes à 10 minutes du terrain de Colombéchard. » Et au bout d'une heure, personne. Une colonne part le long de la voie ferrée et au point kilométrique 315, des débris de toute taille jonchent le sol. Aucun survivant. Le corps de Leclerc est repéré. Paris est aussitôt informé du drame. Et De Gaulle s'exclame « C'est une catastrophe nationale et c'est la seule fois où on l'a vu pleurer. » L'armée française prend le deuil jusqu'au 12 décembre. Escorté de 30 motards, le corps de Leclerc se dirige vers les Invalides. Thérèse et les enfants sont les premiers à venir se recueillir. Le dimanche 7 décembre à 10h, les 12 cercueils qu'ont veillé les officiers de la 2e DB quittent les Invalides pour l'Arc de Triomphe. Les Parisiens défilent pendant presque 8 heures. Le lendemain, messe à Notre-Dame. Désormais, le général repose aux Invalides. Il sera élevé à la dignité de maréchal le 23 août 1952. Alors j'ajoute ceci parce qu'il y a 2 thèses qui s'opposent concernant l'accident. D'abord celle du complot. On a retrouvé 13 corps au lieu de 12 qui sont montés dans l'avion. Ce 13e corps jamais identifié aurait été celui de quelqu'un de l'Intelligence Service. L'Angleterre aurait fait assassiner Leclerc à cause de la guerre secrète du pétrole dans le Fezzan, c'est à l'ouest de la Libye. Et la 2e hypothèse, l'avion militaire avait été modifié pour accueillir des passagers. Il a été donc déséquilibré par l'ajout d'une couchette à l'arrière. Il aurait décroché alors qu'il volait à basse altitude, ainsi qu'il avait tendance à le faire à la suite des modifications. Ajoutant que Leclerc à de nombreuses reprises a forcé des équipages à voler dans des conditions très défavorables, ce qui était le cas à cause d'une tempête de sable. Au revoir à tous.
Leclerc, après avoir représenté la France à la capitulation du Japon, a pris en main la pacification de l'Indochine.
Et puis le 28 novembre 1947, alors qu'il regagnait Colombe-Béchard en avion...
Général Leclerc, la France vous a fait des funérailles nationales. La France vous a nommé maréchal. Le peuple tout entier, unanime, vous a pleuré comme un de ses fils les plus chers. Pourquoi ?
Parce que vous avez lutté comme un homme.
Parce que vous avez donné l'espoir à ceux qui vous ont suivi.
Parce que du Tchad en Tunisie, du Maroc en Normandie, jusqu'à Paris, jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Berchtesgaden, vous avez tenu votre promesse.
Une dernière fois, maréchal Philippe Leclerc de Haute-Cloque, dans votre grand repos, vous pouvez murmurer, modeste et fier comme toujours.
Mission accomplie.